Bonsoir et bienvenue dans La Voix de la Plume. Vous êtes avec Aurore pendant une heure, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons aborder dans La Voix de la Plume le thème de la nature. Un thème que je vous promets depuis 2 mois au moins. Et voilà, ça y est, on y est. Le printemps est lancé, il commence à faire beau. Je me suis dit, on y va. On va inviter qui il faut pour ce super thème du moment. Nous avons donc avec nous aujourd'hui Isabelle Asunsolo, auteure et éditrice. Bonsoir Isabelle.
Bonjour, bonjour Aurore.
Et aussi Frédéric Derouet, moniteur guide de pêche et animateur nature. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Aurore, bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir Frédéric.
Alors La Voix de la Plume, c'est une émission mensuelle qui passe tous les deuxièmes samedis du mois à 19h. Je le rappelle pour ceux qui voudraient se mettre un petit rappel dans leur agenda, parce que notre émission, elle est trop bien. Et aujourd'hui, on va commencer avec Isabelle. Alors, je vais commencer peut-être par ton côté éditrice, Isabelle. Depuis quand tu fais ça? Quel genre tu édites? Comment ça se passe? Parce que je ne l'ai pas dit, mais tu es dans le Beauvaisis, donc on est toujours entouré d'acteurs locaux. Donc Beauvais, ce n'est pas si loin de Compiègne que ça. Et c'est sympa d'avoir des gens qui se bougent.
Et oui, Aurore, eh bien, les éditions Liroli que j'ai créées existent depuis exactement 16 ans. Demain, car le 9 mai, cela fera 16 ans que j'ai créé mon entreprise d'édition.
Voilà. Ça passe vite ?
Oui, mais en même temps, quand je vois le travail réalisé, les titres au catalogue, je me dis que c'est un sacré boulot. C'est vrai. Alors, ça ne passe pas si vite que ça, parce qu'il y a beaucoup de... Chaque livre, c'est tout un monde à faire vivre, connaître, diffuser. Voilà. Donc, c'est très intense, en fait.
Et tu es toute seule dans ta maison d'édition ?
Alors, je ne suis pas tout à fait toute seule, car je fais appel à des graphistes, des illustrateurs, illustratrices, et aussi à des personnes du Beauvaisis pour m'aider, de façon ponctuelle, ou alors sur des périodes où il y a beaucoup de travail, de diffusion notamment. Voilà, et je prends aussi des stagiaires, chose que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup transmettre la passion de mon métier.
Super. Voilà. Du coup, des stagiaires de quelle sorte d'école ou de quelle formation ?
Alors, pas mal de stagiaires de métier du livre. D'accord. Qui s'intéressent à l'édition, mais aussi à des étudiants, étudiantes de littérature. Et puis, je prends tous les ans des collégiens et collégiennes en stage d'observation.
Stage de troisième.
C'est ça. Ils sont souvent très passionnés par... C'est des jeunes qui écrivent et qui veulent voir un peu les rouages d'une maison d'édition, et qui rêvent d'abord d'être édité, puis qui se disent, tiens, peut-être que je vais apprendre beaucoup de choses de l'autre côté, et ça se passe très très bien. Voilà, ça c'est aussi une de mes fiertés, c'est de travailler en équipe avec plaisir, et j'aime beaucoup la jeunesse.
Quel genre de livre tu publies chez Liroli ?
Alors, écoute, c'est intéressant parce que c'est le haïku qui est venu à moi, pas tout de suite au début de Liroli, mais presque. J'ai découvert le haïku en 2004 et j'ai créé Liroli juste après.
Tu peux juste nous rappeler ce qu'est un haïku ?
Oui,
peut-être que nos auditeurs ne savent pas.
Bien sûr, un haïku est un poème très court de 3 lignes et 17 syllabes environ, qui vient du Japon et qui consiste à vraiment capturer l'instant présent en étant attentif à nos sens, les 5, et à ce que l'on vit, sans chercher forcément des choses dans la tête ou très compliquées. Il n'y a pas de rime. On n'essaie pas de faire quelque chose de joli, mais quelque chose que l'on vit, voilà, et qui est peut-être quelque chose d'anodin ou de la vie quotidienne. Alors la nature a le beau rôle là-dedans, mais on peut écrire sur ce qu'on vit à la maison, ce qu'on voit par la fenêtre. C'est vraiment très, 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 très large, en fait, tous les... Voilà.
Frédéric, j'espère que tu as bien écouté, hein, parce qu'on va avoir besoin de ça tout à l'heure pour l'atelier d'écriture. Hein.
Ah, bah, bien sûr. Et puis, la nature me parle, donc c'est oui.
Super. Oui. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé.
Oh, non. voilà, donc le haïku, et c'est devenu une spécialité de l'Iroli, oui.
Et du coup, c'est essentiellement ça que tu as publié.
Essentiellement, et j'avais aussi publié des nouvelles, et cela a été bien plus difficile à faire vivre comme livre. Hein. Il faut savoir qu'un éditeur, une éditrice, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait des livres, qui travaille avec des auteurs, mais qu'après, il faut rendre le livre vivant, l'accompagner tout au long d'une vie qui peut durer très longtemps, et il faut le faire connaître. Mais la nature était déjà un point de départ pour moi, car j'ai fait des études d'agriculture il y a des années, et j'ai toujours été fan de botanique et des plantes, et évidemment voilà, des animaux. Je passe mon temps à regarder les oiseaux. Et ça va, le haïku va vraiment bien avec moi. Donc,
C'était naturel.
Naturel.
De démarrer comme
voilà.
Ça.
Oui.
Et au fur et à mesure des 16 années, du coup, de l'Iroli, tu t'es aussi un petit peu diversifiée. Et là, je sais que tu as un livre à nous présenter. Un livre, du coup, ton dernier né de l'Iroli. Tu veux nous en dire quelques mots ?
Oui, alors le dernier né, Les 24 saisons de Nanako de Pascal Moteki, c'est un journal d'une petite japonaise pré-ado qui explique plein de choses de sa vie de famille, ses jeux, les recettes de cuisine qu'elle aime faire avec sa grand-mère, des recettes de teinture. Elle parle de son jardin bohème et de ses voyages scolaires et de plein de petites choses. Et c'est très joliment illustré. C'est le premier texte publié de Pascal Moteki, qui est une grande illustratrice. Et elle a aussi mis ses premiers haïkus dans ce bel album. Et c'est donc très, très, très chouette. Et évidemment, comme ça tournait autour de notre thème préféré, nous sommes lancés dans ce projet, voilà, qui est en plein lancement et nous sommes enthousiastes là-dessus. Voilà.
Il est sorti depuis quand, ce livre ?
Tout à la fin 2020. On l'a sorti à la fin 2020. On se disait, allez, on y va, parce qu'après, on va le faire vivre pendant le printemps. Et il est très coloré. Sur la couverture, on voit des iris et Nanako qui courent, les bras nus. Donc, on s'est dit, chouette pour le printemps.
Et c'est voilà. les 24 saisons, parce qu'au Japon, ils considèrent qu'il y a 24 saisons.
Alors, c'est très amusant, parce qu'au Japon, on considère aujourd'hui qu'il y en a 5 des saisons.
D'accord.
Outre les 4 que nous connaissons, il y a le Nouvel An, qui prend tout le mois de janvier. Et donc, le Nouvel An est une saison à part entière. Mais, dans un ancien calendrier du siècle encore avant, et c'est un calendrier, curieusement, qui vient de Chine, parce que vous savez tous sans doute que le Japon a pris beaucoup de choses d'influence de la Chine. Mmh. Et donc, c'est un calendrier qui suit 24 saisons et qui observe attentivement. Voilà, début mai, nous sommes arrivés vraiment au cœur du printemps. Le riz pousse. Voilà. Mais il faut savoir que le Japon va encore plus loin. Il y a des calendriers qui proposent 72 saisons,
wow.
Soit une tous les 5 jours. Donc, en fait, par exemple, si on regarde les cerisiers fleurir, on va regarder le début de la floraison. Puis après, quand ça commence à être un tapis de pétales par terre, comme en ce moment, c'est la fin, voilà. Et donc, c'est une attention très extrême à ce que l'on vit. Et c'est ça qui me passionne, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment un parallèle entre lire et regarder avec attention quand on édite un texte pour qu'il n'y ait pas de coquilles et tout ça. Et puis regarder les petites herbes au bord de l'eau, une fourmi qui passe. Voilà, enfin pour moi tout ça c'est une même attention et présence au monde.
Le côté contemplatif de la nature, Frédéric, ça te parle aussi j'imagine ?
Ah bah là j'entends des choses qui me parlent, ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que on est... On est immergé dans la nature et on observe, au-delà de son activité, on observe tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui gravite autour de nous. Donc oui, bien sûr, ça me parle énormément.
Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Eh bien, dis donc, très bien. Donc, les 24 saisons de Nanako, je mettrai une photo aussi en story sur Instagram pour que les gens puissent voir la couverture, parce qu'elle est très belle. Mais tu n'es pas que éditrice, on l'a dit tout à l'heure, tu es aussi auteur.
Eh oui, ou autrice, comme on dit, voilà, apparemment, on peut dire ce qu'on veut d'ailleurs. Moi, je suis née en Espagne et je me considère autora. Voilà. Autora, en espagnol, c'est tellement plus simple. On entend tous les sons et voilà. Donc oui, j'écris depuis toujours de la poésie, que j'aimais écrire. D'ailleurs, le tout premier poème que j'ai écrit ado sur le dos d'un cahier, c'était sur un arbre, un olivier. Moi, je me souviens que vraiment déjà, c'était les arbres, les oiseaux. Eh bien, c'est mon deuxième roman qui sort là bientôt, ce mois-ci. Ça s'appelle « Noé sur la falaise ». Et c'est l'histoire d'une femme qui habite tout en haut d'une falaise en Picardie, dans sa maison perchée. Et c'est une femme qui s'habille uniquement en 1900, voilà, belle époque. Qui est très,
alors que
très...
ça se passe aujourd'hui. Hein,
ça se passe aujourd'hui. Voilà, mais elle est un petit peu dans son monde. Elle est amoureuse de poésie. Et Noé, le narrateur, est un poète qui vient la voir, qui lui apporte des petits poèmes très courts, mais aussi d'autres choses très surprenantes qu'il faut découvrir en lisant le livre, bien sûr. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ça parce que le paysage de la nature de la côte picarde me plaît énormément.
Donc c'est orienté baie de Somme, du coup ?
C'est entre baie de Somme, Merce-le-Tréport. Ouais. Voilà, ça se passe par là. Et voilà, la nature, les plantes, mais aussi les phoques ont leur rôle. Il y a beaucoup de dialogues, c'est assez vivant. Voilà, il y a quelques haïkus qui se glissent, très souvent japonais que j'ai retraduit, voilà. Et oui, Aurore, ça fait bien plaisir.
Écoute, j'ai hâte de le lire. Alors, c'est vrai que c'est quand même souvent, quand les auteurs viennent, que j'ai déjà lu leur livre. Là, je n'ai pas pu le lire puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais j'ai très hâte parce que l'année dernière, moi, je suis partie en randonnée pour faire la côte Picarde pendant une semaine.
Ça va te parler.
Exactement.
Ça va te parler.
Exactement.
C'est merveilleux.
Est-ce que tu as envie de nous lire un extrait? Est-ce
que alors, c'est possible? Tiens, c'est très amusant ce que tu me dis là. Non, j'ai apporté la couverture et je n'ai pas apporté d'extrait. Je peux juste... oui, en plus, j'ai... Waouh, c'est un livre que je lis à voix haute depuis un certain temps pour que ça sonne super bien. Non, alors je n'ai pas là, mais... qu'est-ce que je peux vous dire? Non, c'est pas, je ne peux pas le lire.
Est-ce que tu veux lire un extrait des 24 saisons de Nanako?
Oui, je peux le faire, bien sûr.
Parce que celui-là, il est sorti, on l'a sous la main.
Celui-là, il est sorti, il est partout dans les librairies de l'Oise. Hein. Il a été pris par les libraires et voilà. Alors je tourne les pages et donc Pascale Motteki est aujourd'hui illustratrice. Elle écrit, elle est aussi potière. Et elle nous parle beaucoup de ses poteries dans le papa de Nanako est potier. Là je tombe sur un de ses haïkus. Alors un haïku se lit deux fois. Dans mon rêve. Je m'envole avec une mante religieuse au pays des Lucioles. Dans mon rêve, je m'envole avec une mante religieuse au pays des Lucioles. Les rêves sont des sources de poésie et de haïku. Personnellement, j'écris mes rêves et après, ça peut donner de matière à... Et là, dans l'illustration, je ne sais pas si tu le vois, Aurore, mais j'ai demandé à Pascal de faire une partie à la main. Je ne voulais pas que tout soit à l'ordinateur parce que Pascal Motteki fait d'habitude tout sur tablette graphique. Et là, je lui ai dit, mets de l'encre de Chine, toi, à la main. Et c'était un défi pour elle. Et du coup, ça a donné quelque chose. J'ai toujours cette habitude de vouloir que mes auteurs fassent quelque chose d'un peu nouveau.
Ça donne la menthe religieuse un côté un petit peu inquiétant.
Aussi, c'est vrai. C'est vrai, une drôle, après ça parle de la mer. Tiens, ben là il y a une scène de pêche en fait. Il y a la fête de la mer au Japon, c'est en juillet. Et on nettoie, les enfants nettoient, ils prennent des sacs en plastique et c'est le concours à celui qui aura récupéré le plus de déchets. Voilà.
C'est super, bien.
Ah, mais c'est super. Après, ça parle beaucoup de la pluie, des pluies japonaises qui ont une centaine de noms différents. Eh bien, mon roman Noé sur la falaise a un côté japonisant parce que j'aime beaucoup la pluie aussi et je suis très attentive aux gouttes d'eau. Voilà.
Et sur la côte Picarde, il pleut souvent.
Il y a des petites gouttes et il arrive même qu'il y ait des arcs-en-ciel. Voilà.
C'est vrai. Je suis témoin.
C'est vrai, c'est chouette. Alors là, je tombe sur une double page, c'est amusant. Je vois une bergeronnette sur la. Tu as reconnu, Frédéric, oui. sur la tête de la petite sœur de Nanako. Hier, j'ai écrit un haïku de bergeronnette.
Oh.
Parce que je regardais par la fenêtre de chez moi. Il y a une mare et une petite maison, une maisonnette en bois. Et il y avait un couple de bergeronnettes qui n'arrêtaient pas de faire leurs noces, là, leurs noces printanières. Et j'ai surtout remarqué cette blancheur des joues.
Mmh.
Si vous voyez une bergeronnette de près, elle a du noir sur le front, du noir sur la poitrine, et puis les joues, mais alors d'un blanc éclatant. Donc, qu'est-ce que j'écris? Ah oui, le soir tombé. Alors, c'est « tombe le soir ». Quelle blancheur, quelle est blanche la joue de la bergeronnette ? Tombe le soir, quelle est blanche la joue de la bergeronnette ? Ça, il m'a semblé que rien au monde n'était aussi blanc que ça. Et en même temps, il y avait ce soir qui tombait, donc la nuit venait, mais cette blancheur dépassait toutes les ombres. Alors c'est, voilà.
Et donc, c'est la bergeronnette, c'est une espèce qu'on trouve vers chez nous et qu'on trouve aussi au Japon ?
Oui, bien sûr. Alors, je ne saurais pas te dire le nom japonais, mais effectivement, nous avons la chance dans l'Oise d'avoir des ruisseaux, des rivières, des plans d'eau, beaucoup d'oiseaux qui tournent autour, qui gravitent. Et tout ça, ce sont des sources de haïkus extraordinaires. Si vous aimez la nature, je vous encourage à essayer de vous lancer aussi dans l'écriture. Voilà.
Oui, j'avais lancé pendant les derniers confinements, un petit dimanche haïku. On n'était que deux. Et puis, au fur et à mesure des semaines, on a été jusqu'à 8, je crois.
Ah, super.
À faire des haïkus que je postais sur Insta.
Ah, génial. Génial.
C'était amateur, complètement amateur.
Ah, mais de toute façon, on est tous un peu des amateurs. Parce qu'on dit dans le haïku qu'on démarre chaque jour comme un jour nouveau, tu vois. Et même à la limite, il vaut mieux ne pas être trop calé, entre guillemets, ne pas trop savoir les choses. Quand je croise des personnes très intelligentes et douées, c'est presque difficile pour elles d'écrire parce qu'elles veulent faire tout très, très, très bien. Mmh. Alors que quand tu démarres, tu as cette spontanéité, l'innocence du haïku qui est vraiment un trésor.
Et la sophistication du haïku, c'est sa simplicité aussi, d'une certaine façon.
Eh oui, exactement. Tiens, j'ai lu tout à l'heure, mais c'est vrai, j'ai lu tout à l'heure des haïkus d'un gars, mais je me souviens pas. Enfin, c'est anonyme parce que c'était un manuscrit anonyme que j'ai reçu. Je fais partie d'un jury aussi pour l'Association francophone de haïku. Je ne travaille pas que pour l'Iroli. Je travaille aussi pour cette association. Et c'est un haïku, je ne l'ai pas retenu exactement, mais où un pêcheur est couché sur la berge et on voit ses paupières qui tressaillent. Et c'est très beau parce qu'on sent une paix ambiante. On imagine l'entourage, c'est forcément une belle saison parce que pour dormir, s'endormir, s'assoupir au bord de l'eau, il faut qu'il fasse bon.
Quand on est pêcheur, on s'endort au bord de l'eau n'importe quand,
pas
vrai ?
C'est pas conseillé. Si on veut réussir à y prendre du poisson, s'amuser, il faut quand même rester éveillé, un
c'est
minimum.
Pas Et donc, là, tu penses que c'était la belle saison plutôt, quand même?
C'était la belle saison. Et puis, ces paupières, j'ai rarement lu trop de haïkus qui parlent de paupières de pêcheurs. Mais tout de suite, j'ai pensé aux gens que j'aime et qui aiment la pêche, au bon moment de l'enfance. Enfin, bref, c'est génial. Et là, la belle saison qui démarre, on est tellement contents. Il faut vivre intensément et c'est une chance que d'être là, en bonne santé. Voilà ce que j'espère pour les auditeurs aussi, les auditrices. Voilà, je suis capable de parler beaucoup du haïku. Je ne veux pas tout monopoliser. Voilà.
Peut-être, avant de, un petit interlude musical, savoir où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux, sur Internet, sur, en vrai, si on peut se rendre à Liroli. Ou...
Alors, très bien. Bien sûr, on peut se rendre à Liroli, qui se trouve à Beauvais. Plouy-Saint-Lucien est un hameau, un quartier de Beauvais, qui appartient à la ville. C'est la maison au bord de la mare. Et puis, j'ai un site, éditionliroli.net. Très facile à chercher sur Internet. Il suffit de taper L-I-R-O-L-I.
Liroli, voilà. comme ça se prononce.
Et je ne suis pas très fan de certains réseaux sociaux parce que je vraiment, vraiment préfère le contact vrai, rencontrer les gens, prendre le temps d'aller chez les libraires, chez les bibliothécaires. J'attends avec impatience la réouverture de tous les salons, de tous les événements où on va pouvoir se voir, toucher les livres. Et surtout, surtout, j'essaye de ne pas passer trop d'heures devant l'écran. Voilà pourquoi je n'ajoute pas des réseaux, parce que j'ai besoin d'être dehors. Et si je ne suis pas dehors 3-4 heures par jour, je ne suis pas bien. Alors en plus, depuis un an, j'ai des abeilles avec mon mari Eric. Et on s'en occupe beaucoup, ça nous prend beaucoup de temps. C'est une grande passion aussi.
C'est encore un détail supplémentaire de ce que tu peux faire pour la nature.
Exactement. Ça a un sens. Et c'est les bons moments vécus, finalement, loin des écrans, qui sont les meilleurs. Ça, c'est la vraie vie, quoi. Donc, mon travail demande pas mal de connexion. Mais si je peux être, quelque part, sans entendre des choses ou de lire trop de choses connectées, je suis heureuse. Voilà. Parfait. Donc n'hésitez pas. Après, toutes les librairies de l'Oise nous connaissent et seront ravies de vous montrer nos livres.
Parfait. Eh bien, on va passer du coup à un petit interlude musical avant d'interroger Frédéric. Et pour notre prochaine invitée, on va écouter Le rêve du pêcheur de Laurent Voulzy.
Soleil levant, ah oui, le cacher des baisers dedans.
De la plume. Alors, Frédéric, dis-nous ce que tu fais, parce que en vrai, guide de pêche, c'est pas très commun dans le coin, non ?
En effet, guide de pêche dans les Hauts-de-France, ça peut paraître un petit peu curieux. Et pourtant, quand on réfléchit et qu'on réalise, comme Isabelle le disait justement tout à l'heure, qu'on a la chance d'avoir de belles rivières, de beaux plans d'eau et tout un patrimoine naturel, il suffit de regarder un peu autour de soi. Et pourquoi pas donner des cours de pêche ? Pourquoi pas faire découvrir de nouveaux lieux aux gens sur notre territoire, dans l'Oise, dans l'Aisne ? Et créer une bulle de tourisme autour de ça, donc du tourisme loisir, du tourisme pêche.
Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que c'est quand même un métier qu'on retrouve dans d'autres régions de France, qui est beaucoup plus commun du coup qu'ici, tout ce qui est Ardèche, enfin, toutes les régions du sud en fait.
Oui.
C'est être guide de pêche, c'est pas si étonnant que ça.
Absolument, absolument. Si on va en Dordogne. Si on va en Ardèche, dans les Alpes, dans les Pyrénées, on va retrouver énormément de guides de pêche. Et parfois même, ils peuvent communiquer entre eux et se renvoyer des prestations, des journées de guidage, etc. Dans les Hauts-de-France, c'est tout un autre système parce qu'on est, on n'est pas trop représenté, voire très peu. Et là, finalement, tout est à faire. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place.
Alors que finalement, le patrimoine halieutique, il est là, il demande que ça.
Ah bah absolument, oui. On a des rivières où on trouvera carnassiers, poissons blancs. On trouvera aussi la truite sur des rivières de première catégorie. Donc on est quand même très proche de Paris. On est quand même relativement cohérent pour offrir de belles prestations, de belles journées pêche. Journée pêche qui est d'ailleurs le nom que j'ai choisi de donner donc à mon activité.
Exact. Oui, ton site c'est journeepêche.fr, hein, c'est ça.
Tout à fait, j'ai voulu trouver quelque chose de simple et efficace. Donc journée pêche, je pense que les gens pourront s'en souvenir. Donc journée pêche au pluriel, puisqu'on peut faire appel à moi pour plusieurs cours, plusieurs techniques de pêche en fonction de ses objectifs et puis de ce qu'on veut, de ses rêves finalement, comme on l'entendait à l'antenne tout à l'heure.
Exact. Et du coup, sur la partie animation nature, tu t'adresses à quel public ?
Alors, l'animation nature, c'est finalement ouvert à tous les publics. Et généralement, j'aime bien intervenir au niveau scolaire. Donc, dès les classes de CP, j'aime bien intervenir, voire des fois dans les classes directement, pour parler de la nature. Donc de la nature au sens large, qu'on va retrouver autour des milieux qui me rendent sensible, c'est-à-dire les milieux aquatiques, mais pas que. Tout ce qu'on va trouver autour des milieux aquatiques, moi je vais pouvoir parler aussi bien des insectes, de l'émergence des insectes, de leur transformation dans les milieux de vie, pourquoi ils vivent à un endroit plutôt qu'à un autre. Également la faune, la flore d'une manière générale, qu'est-ce qu'on retrouve au bord de l'eau ? Pas seulement des poissons qui vivent dans l'eau, mais également des oiseaux, certaines espèces, comme le disait justement Isabelle tout à l'heure, les bergeronnettes des rivages, qui vont venir, eux également, attraper les insectes au vol et se nourrir, comme le feraient les truites sur une rivière.
C'est tout un écosystème, en fait.
C'est tout un écosystème que je vais chercher à partager avec le public, pour apprendre, pour enrichir ses connaissances sur les milieux.
Donc en fonction des classes, du CP au CM2, tu vas proposer des animations qui correspondent au programme des enfants, c'est ça l'idée?
Absolument, oui.
Et
oui.
Même aller plus loin selon les oui. Desiderata
Oui, bien sûr. Bah là, tout ce qui gravite autour du monde du vivant, on est en plein dans le programme scolaire, de toute façon, en primaire. Et autour de ça, on peut aller plus ou moins loin dans les espèces, dans la caractérisation des espèces, pour augmenter ses connaissances. Et là, oui, c'est la faune, la flore au sens large.
Et quand c'est comme ça, ça se passe comment avec les classes? Parce que tu peux intervenir juste en classe ou faut forcément aller dehors?
Généralement, ça se passe en deux temps. Il y a quand même un premier volet qu'on traite en classe pour s'immerger dans le thème. Donc pour prendre par exemple les insectes, c'est tout un travail en amont sur qu'est-ce qu'un insecte, comment il se transforme, pourquoi on le trouve au bord d'une rivière et pas sur un plan d'eau. Et à l'inverse, lesquels on trouverait plutôt en plan d'eau et pas en rivière. Ensuite, souvent, les instituteurs interviennent au préalable aussi avec les enfants pour les sensibiliser déjà au thème. Et ensuite, moi, j'interviens en classe pour aller un petit peu plus loin.
Donc ça, c'est une première intervention que tu fais?
Tout à fait. Et par la suite, il est très, très souvent le cas d'amener ensuite les enfants au bord d'un milieu naturel, donc une rivière, un plan d'eau, et voire une mare, et là du coup concrétiser tout ce qu'on a vu en classe au bord du milieu de vie des espèces.
D'accord, donc du coup ça se passe en deux temps, une phase en classe, une phase dehors.
Oui, absolument.
Avec les élèves. Ah, c'est bien comme ça, ils voient le concret aussi de tout ce qu'ils ont étudié en classe, ça rend les choses vivantes, hein. Puisqu'on est sur le monde du vivant.
Ah oui, absolument. Et puis, ils peuvent, par le biais de jeux, par le biais de petits défis, aussi, du coup, continuer à développer leurs connaissances, à interagir en groupe, entre eux, à s'organiser. Et ça fonctionne assez bien.
Cool. Donc ça, tu fais ça toute l'année, les interventions en classe?
C'est quelque chose qui peut être déployé... je dirais toute l'année. Cette année, j'ai démarré en janvier, janvier-février. Après, ça prend un peu plus de sens quand la nature émerge, donc au printemps. Donc, on va arriver sur la période d'avril-mai, et jusqu'à juin avec des sorties scolaires.
Pour toutes les interventions, pour toute la deuxième partie d'intervention, en fait, celle qui se fait dehors, c'est plus sympa au printemps, en fait.
Ah oui, absolument. Oui. Parce que, comme disait Isabelle tout à l'heure, on est entouré de toute une transformation, toute la nature. Les oiseaux se reproduisent. On trouve les espèces aquatiques également qui peuvent être en phase de reproduction. Donc, on peut trouver des œufs ou pas mal d'indices au bord de l'eau. Donc, c'est assez concret.
Super. Très bien. Bah, écoute, voilà, le message est passé aux enseignants du coin. S'ils veulent un animateur nature dans leur classe, ils peuvent contacter Graphite ou me contacter ou te contacter directement.
Et je me posais, pardon, Aurore, la question. Et l'automne aussi, n'est-ce pas une saison où on peut faire des choses aussi dans les classes?
Absolument.
Ah oui, c'est pas absolument. Que le printemps, du coup.
Ah non, là, on parle du printemps parce qu'on est le 8 mai et qu'on est du coup émerveillé par du coup cette nature printanière. Mais effectivement, l'automne est une belle saison également où on voit aussi la transformation de la nature. Il y a quelque chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est ces animations, land art, qui sont très intéressantes à faire avec des groupes scolaires et qui font travailler justement l'imagination des enfants et encore une fois le travail et la cohésion de groupe pour faire des recherches.
Mais oui, parce qu'on peut aller à la pêche de feuilles d'automne.
Absolument.
C'est très chouette.
Ben oui.
Ben super. Donc en fait, dès septembre, tu peux retravailler dans les classes de nouveau. Enfin, tu le fais déjà là, mais j'imagine que ton carnet, il commence à se remplir. Mais du coup, pour septembre, c'est possible aussi.
Absolument, il n'y a pas de limite avec la nature. Au contraire, hein, quand on prend le temps de l'observer et de s'y intéresser.
Et sur le côté pêche, le mois de mai, c'est une bonne période ?
Ah bah alors là c'est la période, le mois de mai c'est encore une fois, hein, ça part de la nature, c'est la période où on va trouver beaucoup d'insectes au bord des rivières, les insectes vont éclore, émerger, notamment la fameuse mouche de mai, donc Ephemera danica, qui est une éphémère assez incroyable puisqu'elle... Elle a une vie assez ingrate finalement, puisqu'elle vit que deux jours à trois jours maximum. Et elle vit deux à trois ans à l'état larvaire, donc dans la vase au fond d'une rivière. Et finalement, elle ne vit que pour pondre et mourir. Donc elle se... cet insecte magnifique que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas, Ephemera danica, c'est la mouche de mai. Donc la mouche de mai, qui dit mouche de mai, dit pêche à la mouche, dit rivière, et dit être au bord d'une rivière avec une canne à mouche à la main, des imitations de mouche de mai dans sa boîte, et venir traquer la truite sur nos beaux cours d'eau. Avec une concentration maximum dans l'activité, dans l'observation de la nature, une maîtrise de sa gestuelle et réaliser son objectif, son rêve, donc attraper sa truite à la mouche. Donc là, effectivement, le mois de mai, c'est une période où je vais beaucoup accompagner des pêcheurs de la région, du Nord, de Paris, qui souhaitent vraiment s'immerger dans la recherche de la truite à la mouche de mai.
Donc toi, tu es spécialisé pêche à la mouche. Non, tu disais que tu faisais quand même un peu tout, toutes les pêches, mais du coup, au mois de mai, tu te dédies...
Le mois de mai, c'est quand même un mois qui est très, très favorable à ça. Et du coup, effectivement, il faut partager cet instant qui, lui aussi, est éphémère, finalement, parce que ça ne dure que quelques semaines. Et voilà.
D'accord. Et tu les emmènes, je ne sais pas si c'est une question qui se pose à un guide de pêche, mais tu les emmènes sur où, tes clients ?
Ah, alors là, il y a plusieurs possibilités, parce que le territoire est vaste et les insectes se développent sur la plupart des cours d'eau, un peu plus sur certains que d'autres. Donc j'aurais tendance à dire dans l'Oise, dans l'Aisne, en fonction des objectifs de chacun.
D'accord. Et les truites, du coup, pour la pêche à la mouche, par exemple, si je te dis sur l'Oise...
Mmh. Ah, sur l'Oise...
sur l'Oise, la rivière.
Sur la rivière Oise ? Ah non, pas du tout. Ah non, alors là, on va aller sur des rivières dites de première catégorie, donc les rivières à truites, donc qui sont des milieux beaucoup plus riches en oxygène dissous, aussi en organismes vivants. Donc justement, on parlait des insectes. Qui vont s'y développer davantage. Et là, non, on arrive sur des petits cours d'eau, type rivière de plaine, souvent, short stream. Et là, c'est des milieux beaucoup plus favorables à ça.
Oui, donc il faut connaître, hein, quand même.
Ah bah, il faut connaître, il faut suivre le guide.
Suivez le guide. Très bien. T'as encore des créneaux dispo là pour le mois de mai ou c'est déjà blindé ?
Avec les décalages et le déconfinement, il reste des places encore aujourd'hui. Il faut savoir que moi je prends aussi des réservations en semaine, donc il faut pas hésiter à me proposer des dates en semaine si vous avez des jours de congé ou des choses qui s'ouvrent à vous en semaine. Je suis ouvert à vous accompagner, à vous guider également.
Super. Dans ce que tu vas proposer comme nouveauté aussi pour l'automne, je te laisse nous en parler.
Oui, alors sur la période...
Peut-être que ça intéressera Isabelle d'ailleurs, on ne sait pas.
En fait, ce que j'ai envisagé là, depuis une petite année maintenant, c'est de mettre en place pour revenir à ta question sur l'Oise tout à l'heure, un produit qui va également exploiter les rivières type Oise N, navigables ou canaux, du coup en bateau. Donc c'est faire un nouveau type de guidage en bateau sur les rivières de l'Oise et de l'Aisne.
Okay, oui, parce que
sur la rivière Oise et Aisne.
La truite, ça ferme en septembre, je ne veux pas dire une bêtise.
C'est ça, oui, absolument.
Et du coup, après, une fois que la truite est fermée, c'est le carnassier qu'on pêche encore.
C'est une période qui va être favorable au carnassier et donc à des pêches soit du bord, soit en barque. Et moi, j'ai du coup décidé de proposer donc, des guidages en bateau. Qui vont du coup permettre d'amener directement les clients dans des lieux de pêche bien précis, dans des zones de pêche bien précises, sur l'Oise ou sur l'Aisne, en fonction des carnassiers qu'ils voudront traquer, qu'ils voudront du coup pêcher. Et c'est des journées qui seront pleines. Je pourrais prendre je pense, deux pêcheurs par journée.
D'accord. Et on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais je sais que tu pratiques le no-kill. Et c'est quand même aussi important, n'est-ce pas Isabelle, je vois que tu fais.
Ah oui.
L'idée n'est pas d'attraper le plus de poissons pour les manger.
And release.
Voilà, exactement.
Yes, exactly. Absolutely.
Mais en français, ça doit se dire attrape et relâche.
C'est ça.
Je pense.
C'est ça, exactement. C'est capturer, relâcher. Et en plus de ça, on est vraiment dans l'air du temps parce qu'on essaie d'avoir un maximum de plaisir à retrouver nos poissons, à pouvoir réattraper un même poisson. On parlait tout à l'heure de la mouche de mai. Moi, il n'est pas rare lors de la période de la mouche de mai d'attraper un poisson et de le réattraper le lendemain. Alors certains auront peut-être du mal à me croire, mais j'ai des photos qui le prouvent. On peut réattraper les mêmes poissons qu'on reconnaît bien puisqu'on les prend tous en photo aujourd'hui ou presque. Et le fait de pratiquer ce geste de relâcher son poisson, si c'est bien fait, c'est quelque chose qui fonctionne. Et là, aujourd'hui, dans l'Oise, dans l'Aisne, par exemple, on a mis en route ce qu'on appelle des fenêtres de capture pour les brochets. On encourage les gens à remettre les gros brochets à l'eau plutôt que les garder et à choisir à garder un poisson, plutôt un poisson de taille inférieure, donc qui aura moins d'impact sur la reproduction ensuite de l'espèce.
Ah oui, parce que les gros brochets, c'est...
seront meilleurs géniteurs.
Ah.
Donc on essaie d'encourager ce catch and release dans le bon sens, pour l'avenir. Pour l'avenir.
Super, bon. Je rappelle, du coup, on te trouve sur ton site journeepêche.fr, donc journée au singulier, pêche au pluriel, tout attaché.
Oui, c'est ça.
On te retrouve aussi sur Facebook.
Sur Facebook et Instagram, où je poste régulièrement des photos et vous pouvez me trouver sur le même nom, donc Journée Pêche.
On est sur le @ Journée Pêche aussi. Ok, super. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose?
Je pense juste à une chose qui... Je ne sais pas si je peux la dire. Tu m'as demandé si je pouvais lire un extrait de mon livre « Noé sur la falaise », mais je me souviens juste d'un détail qui est très amusant et qui me permet de rebondir parce qu'il y a un détail autobiographique de la vie de Noé. Il dit qu'il a appris à lire avec un cristallin de dorade. Sa mère rapportait du marché une dorade et sortait de l'œil du poisson, le cristallin, vous savez, la petite boule, et la promenait sur un papier journal. Et ça fait loupe. Et c'est comme ça que Noé a appris à lire. C'est marrant, hein ?
D'accord.
Et oui, c'est de bons souvenirs, des choses comme ça.
Oui, la dorade, c'est intense. Un bon poisson de mer. Moi, je connais ça qui est dans mon assiette, malheureusement. Mais...
on retourne là, on va à la mer. Et au fait, est-ce que ça t'arrive d'aller sur la mer, enfin, sur la côte?
Alors, j'y vais en bon touriste, mais ça reste assez peu fréquent. Non, aujourd'hui, c'est plutôt... mon univers est plutôt autour de l'eau douce.
D'accord.
Mais pour la suite, pourquoi pas? Pourquoi pas aussi... du coup, me rapprocher
oui, puisque du coup,
mer.
Quand tu commences, tu vas commencer le bateau, c'est plutôt, tu as dit, pour les rivières, mais toi, tu as aussi le permis côtier. Donc, oui. Potentiellement, dans quelques années, pourquoi pas développer
Voilà, donc là, pour utiliser un bateau et notamment sur être polyvalent, il faut les, je pense, les deux permis, hein, le permis fluvial et le permis côtier, oui, effectivement. Donc le permis côtier permet aussi de, bah, de, voilà, de d'amener un client en bateau sur une journée précise. Un
pêcher la dorade.
Pêcher le bar ou la dorade, pourquoi pas, bien sûr, bien sûr.
Ben, c'est super.
Si vous êtes prêts, moi, j'aimerais bien vous voir à l'œuvre des haïkus.
Waouh.
Oui, bah oui, on termine toujours par le petit atelier d'écriture. Bon, Isabelle, je me fais pas de soucis pour toi. Hein.
Alors, comment tu veux que l'on fasse? Je vois des choses par ici, des noms de. Non, ah bah. Je vois. Attends.
Il y a des indices.
J'ai
sur
pris
les...
des notes. Alors, quel est le. Qu'est-ce que tu.
Alors, veux, bah, l'idée, je vais vous laisser, disons, 7 minutes.
Waouh, 7 minutes.
Le temps de deux chansons, en fait, hein, tout simplement. Comme ça, pendant ce temps-là, nos auditeurs, ils vont pouvoir écouter de la musique. Ils vont pouvoir aussi écrire un haïku, si ça leur dit. Et puis me le partager, soit sur la page de Graphite, soit sur mon Insta. On peut me l'envoyer en DM à AYGBleu et je serai ravie de le poster également. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, je vais voir si j'ai bien appris ma leçon.
Alors, je t'écoute.
Donc, un haïku, trois vers.
Trois lignes. Voilà.
Trois lignes avec pas forcément de rimes, 17 syllabes en moyenne.
Oui.
On n'est pas.
Voilà, on essaie de ne pas dépasser 17 syllabes pour que ça reste court. Et si vous voulez faire parfaitement, c'est 5, 7, 5. Première ligne 5, deuxième 7, troisième 5. Mais du moment que vous faites à peu près court, long, court, c'est bon. Et vous essayez d'écrire quelque chose que vous avez vécu là, aujourd'hui, ce 8 mai. Au réveil, qu'est-ce que vous avez vu, entendu, un petit détail.
Oui, on fait appel à nos cinq sens, hein. C'est ça que tu disais.
C'est ça. Alors souvent, c'est la vue qui est la plus usuelle, parce que c'est celle qui on a tous le plus immédiatement, mais sinon, les sons aussi, les sons, les voix, les mots entendus, les phrases, les chants des oiseaux. Si vous avez des animaux familiers, alors allez-y, hein, parce que les chats, les chiens ont toujours des choses qu'ils font, des petits... Et des enfants aussi. Les enfants sont très inspirants. Ils peuvent dire une phrase qu'on a envie de garder, alors on va écrire un haïku avec la petite phrase. Mmh. Et du coup, c'est aussi une façon de capturer et de garder un bon souvenir. Après, on oublie. Hein. Quand on a les enfants qui grandissent, on a oublié les mots qu'ils disaient, la petite chose mignonne.
Donc ça voilà. Permet aussi de faire un marqueur temporel sur son enfant qui grandit.
Exactement.
Eh bien, allez-y. Frédéric, des questions peut-être?
Non, j'ai pris des notes, hein, pour les syllabes. Et d'ailleurs, j'avais... non, c'est plutôt une question sur précédemment, parce qu'on avait dit qu'il fallait le lire deux fois. Et je me posais la question, pourquoi il faut lire deux fois le haïku, finalement?
Eh bien, tout simplement parce que ça passe très vite. Quand tu le lis une seule fois, comme c'est court, eh bien, ça, c'est difficile de... Alors, la deuxième, on est plus attentif encore. Et voilà. Alors, juste dire aussi que la troisième ligne est très importante, parce que c'est la dernière que l'auditeur, l'auditrice vont entendre,
oui.
Et que le lecteur, lectrice vont voir. Et du coup, c'est un peu la surprise. Souvent, on laisse pour la fin la petite surprise, la petite note comique.
Oui.
Et souvent aussi, il y a une allusion à la saison. Alors, évidemment, si on dit qu'il y a...
Les cerisiers en fleurs.
Cerisiers en fleurs, ça y est, on a compris que c'est le printemps. C'est vrai que les saisons sont toujours importantes, mais on peut aussi écrire sans. Mais voilà.
C'est le rapport à la nature.
C'est le rapport à la nature. Alors, voilà. Okay. C'est parti.
D'accord. C'est parti. Je vous laisse travailler pendant que nous allons écouter de notre côté... La chanson Respire 2020 de Mickey 3D en featuring avec Big Flo et Oli.
Donnez-moi un peu d'air. Mais j'ai fermé la fenêtre.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin.
Et on a bien grandi, on n'est plus des gamins.
Okay.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, je crois bien.
Okay.
Droit dans le mur, on continue de foncer. Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait. Je vous en veux, vous qui étiez avant nous.
Okay.
D'avoir pas fait grand-chose pour éviter le trou. On cherche des excuses quand la terre se désole. Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole. Je mets un masque pour aller à la mer.
Okay.
J'enfile un casque VR pour prendre l'air.
Okay.
On fonce dans le fossé à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans.
Un boomerang dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent.
Les trop tard quand les taux se resserrent.
Si c'est pas rien de le dire,
alors c'est quoi de le faire? Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux.
À la fin, qui restera debout?
On espère que la génération future fera mieux.
Mais celle d'avant, espérez pareil de nous. Il faut que tu respires. Donnez-moi un peu d'air. C'est demain que tout empire. Et demain c'est hier. Tu vas pas mourir de rire. J'ai pas compris la blague. Et c'est pas rien de le dire. Alors je le rappe. Il faut que tu respires. Mais j'ai fermé la fenêtre. Et ça c'est rien de le dire. Tout va dans la tête. Tu vas pas mourir de rire. Je comprendrai peut-être. Et c'est pas rien de le dire.
Ah, t'avais raison.
Il faut que tu respires.
Donnez-moi un peu d'air.
C'est demain que tout empire.
Et demain c'est hier.
Tu vas pas mourir de rire.
J'ai pas compris la blague.
Et ça c'est rien de le dire.
Alors je le rappe.
Il faut que tu respires.
Et j'ai fermé la fenêtre.
Il faut que tu respires.
Tout va dans la tête.
Il faut que tu respires.
Je comprendrai peut-être.
Il faut que tu respires.
Ah, t'avais raison.
On enchaîne avec un extrait de Sacré Grisaille, un titre du groupe PNQT, anciennement Plus Naïf Que Tout, un groupe que j'aime particulièrement, qui fait de la pop très fraîche, optimiste, un groupe que je vous conseille, PNQT, Sacré Grisaille.
Je jette toutes ces paillettes.
De retour dans La Voix de la Plume pour cette toute dernière partie, l'atelier d'écriture. Donc Isabelle Assunsolo, éditrice et auteur, et Frédéric Derouet, journée pêche, donc guide de pêche animateur nature, sont avec nous. Ils se sont prêtés au jeu. J'espère que vous avez été aussi nombreux à vous prêter au jeu chez vous, au jeu du haïku en l'occurrence. Lequel d'entre vous veut commencer par nous faire part de sa création ?
Bien, bon, je veux bien commencer.
Tu te lances ?
D'accord, alors.
Donc on a dit un haïku, on le lit deux fois. Hein.
C'est ça.
D'accord, donc oui, il faut le lire deux fois. Donc, alors, je vais commencer. Alors, les pieds dans l'eau, il ne pensait pas pouvoir la séduire. Soudain montante, elle vint gober l'éphémère. Les pieds dans l'eau, il ne pensait pas pouvoir la séduire. Soudain montante, elle vint gober l'éphémère.
La truite, donc.
Et oui.
j'ai reconnu.
Oh. Il y avait truite sous roche.
Et oui.
Mais oui, truite sous haïku. Parfait.
Merci.
Bon, chouette. Alors, si je peux me permettre, c'est un tout petit peu long, Fred. Ah. Tu peux essayer d'élaguer un tout petit peu et du coup, il y aura un effet plus fort sur ceux qui l'entendent.
Oui.
Tu enlèverais, essaye un mot ou deux de moins. Mm-hmm. Ça reste énigmatique. C'est bien parce que chacun imagine ce qu'il veut. Mais à mon avis, tu peux, est-ce que tu peux le relire juste
bien sûr.
Une fois ?
Oui, oui. Les pieds dans l'eau, il ne pensait pas pouvoir la séduire. Soudain montante, elle vint gober l'éphémère.
Pour moi, je garderai la première ligne, évidemment, les pieds dans l'eau. Et les deux dernières. Il ne pensait pas qu'il la séduirait et tout ça. Je laisserai. Ce n'est pas. Essaie de le relire sans ça. Mm-hmm. Parce que là, tu es parti pour un petit roman.
D'accord.
lis donc sans le côté.
Sans la phrase du milieu.
Sans la phrase du milieu. On va voir ce que ça donne.
Les pieds dans l'eau. Soudain montante, elle vint gober l'éphémère.
Je dirais même, elle gobe l'éphémère. Mm-hmm. Sans passé simple, juste le présent. Le D'accord. présent, c'est ça. Le haïku aime beaucoup le présent.
Okay.
Et du coup, les pieds dans l'eau, on voit bien qu'il y a un être humain qui est là et qui observe de tout ça.
D'accord.
Ça, c'est pas mal. Et soudain montante, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut être. Ah. Et puis, on a la chute, la troisième ligne. Ah, gober l'éphémère. En plus, gober l'éphémère, c'est très amusant parce que... Elle gobe l'éphémère, c'est aussi ce que l'on recherche dans le haïku, hein, capturer l'instant éphémère.
Oui.
C'est bien pour ça qu'on écrit des haïkus, c'est pour capturer l'instant qui passe. Mm-hmm. Donc c'est pas mal, hein. Il y a plusieurs lectures.
D'accord.
Et quant à l'autre, et voilà. Donc c'est super.
Bon, merci cool. Isabelle, j'ai corrigé du coup. C'est parfait.
À ton tour.
Eh bien moi, j'ai été inspirée par les libellules et je me suis souvenue d'une chose très simple que j'ai vécue. J'avais sauvé une libellule.
Oh.
Alors voilà, libellule sauvée, tu t'envoles pile quand je ne te regarde plus. Libellule sauvée, tu t'envoles pile quand je ne te regarde plus. C'était, elle était dans l'eau, hein, donc vous l'avez compris, repêchée. Mm-hmm. Et pendant très longtemps, on attend qu'elle sèche ses ailes.
Oui, ouais, c'est ça.
Alors il se passe une demi-heure, on la regarde, et pile, voilà, tout le monde a compris, c'est pas la peine d'expliquer. C'est ça l'éphémère, et c'est ça aussi l'intensité de la vie qui mérite le coup d'être vécue, partagée, comme vous le faites si bien, c'est chouette.
Ben merci.
Ben merci, c'était vraiment bien d'être invitée ici dans cette radio.
Eh ben c'était avec plaisir, donc on redit liroli.net à
voilà.
Plouy-Saint-Lucien qui est un quartier de Beauvais, et
oui.
journeepêche.fr ou @journeepêche sur les réseaux Facebook, Insta.
C'est ça. Merci Aurore.
Très bien. Merci à vous, Aurore et Fred. C'était chouette. Et
avec
à tout le monde.
Avec plaisir. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission rapidement aussi et m'envoyer vos haïkus à vous, auditeurs, si vous le souhaitez, sur donc mon Insta, @AYGBleu, et sur mon site internet, lessynergiesd'aurore.fr. Eh bien, à bientôt pour un nouveau thème que je n'annonce pas. Ça sera une vraie surprise en plus pour le mois de juin. Je n'en dis pas plus, nous n'aurons pas d'auteur local pour le coup, mais nous aurons une petite célébrité avec nous. Voilà.
Waouh. Wow. À bientôt alors.
Bonne soirée à tous.